Bonjour, aujourd'hui un empire oublié, Palmyre. Et vous, rue de Palmyre, forêt de colonnes dans l'immensité du désert, qu'êtes-vous devenu ? Hölderlin. Deux mille ans d'histoire. Lorsqu'au XVIIe siècle, les premiers voyageurs européens ont découvert ces ruines, Palmyre n'était plus qu'un village perdu, quelque part au milieu du désert syrien. Et personne n'aurait pu imaginer que 14 siècles plus tôt, cette oasis était un empire. Il n'en restait plus que les temples et les tombeaux d'une ville qui avait été une des cités les plus prospères de son temps, à l'extrémité orientale de l'Empire romain auquel elle avait été annexée, jusqu'au règne d'une des femmes les plus célèbres de l'Antiquité. Devenue reine de Palmyre après l'assassinat de son mari en 267, Zénobie avait décidé de rendre à son royaume la puissance, le faste et la grandeur qu'il avait avant de devenir une province romaine.
Que regardes-tu, Zénobie ?
Les dunes sont d'or au soleil couchant. Dans le désert, le temps est un mot sans aucun sens. Ces ruines sont les vestiges d'une de nos anciennes cités. Le sable l'a englouti.
À qui appartenaient ces tombeaux ?
Aux anciens rois et chefs de Palmyre. Eux aussi aimaient le soleil et la vie. Et leurs passions se sont éteintes dans la nuit des tombeaux.
S'ils avaient pensé plus souvent à la mort, ils auraient sans doute joui davantage de leur vie.
Peut-être même avait-il renoncé volontairement aux joies de la vie pour suivre un rêve glorieux. Que la nouvelle Palmyre retrouve sa puissance et sa grandeur.
Annie et Maurice Sartre, bonjour.
Bonjour.
Alors, vous êtes historien, spécialiste de l'Antiquité. Vous venez d'écrire à quatre mains un livre sur Palmyre, dont le nom est toujours associé à celui d'une des reines les plus célèbres de l'Antiquité, Zénobie, hein, qui a fait de Palmyre une puissance redoutable il y a 1700 ans. Mais à cette époque, vous le rappelez, Palmyre existait déjà depuis très longtemps et elle était une cité florissante, Maurice Sartre.
Oui, en fait, les premières traces d'occupation à Palmyre sont très anciennes, mais le nom de Palmyre même apparaît déjà dès le début du deuxième millénaire dans des sources assyriennes en particulier. Et puis, par intermittence, on retrouve soit des gens originaires de Palmyre, soit le nom de la ville dans les annales.
Le nom de la ville qui n'était pas Palmyre.
Qui n'est pas Palmyre, qui est Tadmor. Et Palmyre n'est en fait qu'une déformation du nom sémitique. Et aujourd'hui encore, en arabe, Tadmor s'appelle Tadmor. Enfin, Palmyre s'appelle Tadmor. Donc, le nom n'a pas changé. Ça passe surtout pour un repère de brigands. Ce qui est peut-être un peu excessif parce que les États bien stabilisés dans la vallée de l'Euphrate voient toujours les gens du désert comme des brigands. En fait, il semble aussi que la ville de Palmyre, qui est une oasis, donc une ville aussi de sédentaires, a elle-même souffert du brigandage.
Mais comment est-ce qu'une oasis, un petit village, un repère de brigands, comme vous dites, a pu devenir comme ça, en plein désert, une cité extraordinairement florissante?
Alors, elle a été extraordinairement florissante pendant une époque, peut-être plus longue que celle qu'on devine pour l'instant. Elle n'a probablement pas toujours été un des grands relais du commerce. Mais il y a plusieurs facteurs. D'une part, elle a une position géographique qui est intéressante. Elle est à peu près à mi-chemin, en ligne directe, entre la Méditerranée et la vallée de l'Euphrate. Et donc, pour des gens, je ne dirais pas simplement pressés, mais qui doivent aller d'un point à un autre, c'est le trajet le plus court qu'on puisse faire. D'autre part, il y a sur place de l'eau, même si cette eau n'est pas bonne, elle est sulfureuse, mais pour les cultures, c'est suffisant. Et puis surtout, à proximité, il y a des montagnes où il y a des pâturages et où on peut faire de l'élevage de chameaux. Et pour faire du commerce de caravanes, les chameaux sont indispensables.
Alors c'est devenu une plaque tournante du commerce dans l'Antiquité. À un moment donné, c'est par là que transitait une bonne partie du commerce qui se faisait entre l'Asie et l'Europe. D'ailleurs, je crois même que Palmyre était connue en Chine, Palmyre par lequel transitait justement notamment la soie qui allait vers l'Europe.
Absolument, on a trouvé à Palmyre beaucoup de soie chinoise, y compris de la soie, des étoffes commandées par les palmyréniens expressément, puisqu'il y a sur certaines soies, dont on sait qu'elles sont tissées en Chine, des motifs qui n'ont rien de chinois, comme par exemple des chameaux se reposant sous des palmiers, sur des cartons envoyés par les palmyréniens.
Et puis beaucoup de produits qui ont fait de Palmyre, c'est une belle formule, je crois, d'un historien qui s'appelait Ville, qui appelait Palmyre la Venise des sables.
Oui, hein, c'est une belle
c'est
manière.
C'est pas un port, mais c'est un port sur terre, dans le désert.
Oui, c'est un port du désert. Un autre livre porte ce titre, Le port du désert. En réalité, c'est par là qu'arrivent toutes les marchandises qui viennent par la Mésopotamie, par la Babylonie, où les Palmyréniens disposent de relais. On sait qu'ils ont des relais jusqu'à Bahreïn, par exemple, à un moment donné. Mais ça, c'est la grande époque, j'allais dire, le commerce est bien attesté à l'époque romaine, c'est-à-dire à l'époque où la ville est romaine. Mais elle est déjà riche avant, puisque l'on sait qu'à la fin du 1er siècle, en 41 avant Jésus-Christ, Marc-Antoine, qui a besoin de faire du butin, lance son armée sur Palmyre pour la piller et parce qu'il sait qu'il trouvera là des richesses.
Alors ces richesses, elles font la fortune des grandes familles de Palmyre qui construisent des édifices dont on a retrouvé les lits. Beaucoup de tombeaux à Nisarthe qui ont intrigué tous les premiers voyageurs qui ont découvert Palmyre. C'est un peu comme... Il y avait le culte des morts, un peu comme en Égypte.
Alors, pas exactement comme en Égypte. C'est vrai que les Palmyréniens momifiaient en partie leurs morts, mais d'une manière beaucoup plus sommaire. On les enveloppait dans du bitume et ensuite dans des bandelettes faites avec des tissus de récupération et on habillait les morts lors de l'inhumation. Mais ces tombeaux sont en effet ce qu'il y a de plus spectaculaire lorsqu'on arrive à Palmyre. Tous les voyageurs les signalent et encore aujourd'hui, lorsqu'on arrive à Palmyre, ce qui frappe en premier lieu le visiteur, ce sont ces grandes tours funéraires, qui sont un des aspects des tombeaux, car il y a les tours funéraires, mais il y a aussi des tombeaux souterrains, qu'on appelle des hypogées, et il y a des temples funéraires. Donc il y a au moins trois séries de tombeaux différents. Et ces tombeaux, dans la mesure où les inscriptions qui sont gravées au-dessus des portes nous l'apprennent, sont les tombeaux des grandes familles de Palmyre qui se font construire ces édifices.
Est-ce qu'on sait quelles étaient les institutions de Palmyre? Dans votre livre, Annie et Maurice Sartre, vous parlez de cités qui fonctionnaient un peu comme les cités grecques avant l'arrivée des Romains.
Alors je crois qu'il faut distinguer deux périodes. Palmyre, qui n'a jamais été un royaume, il faut autant le dire tout de suite, ni au deuxième millénaire, ni au premier.
Pas plus que Zénobie, comme vous l'avez dit, a été une reine.
Pas plus qu'à l'époque de Zénobie. Zénobie, on le dira tout à l'heure, a été reine, mais elle n'est pas reine de Palmyre. Donc Palmyre n'a jamais été un royaume, mais les Palmyréniens se nomment eux-mêmes, on le sait par des textes, sur la communauté des Palmyréniens. Donc il y a des institutions avant même l'annexion à Rome. À partir de 19 de notre ère, la cité, la ville est annexée par Rome, ça devient une ville de l'Empire romain. Et à des
une ville arabe, hein, c'est une population arabe.
Il y a une population mixte qui est à la fois arabe, araméenne pour l'essentiel, mais qui est largement acculturée aussi. Et donc la ville se dote peu à peu des institutions tout à fait classiques de l'ensemble des villes de la partie orientale de l'Empire romain. C'est à ce titre-là qu'on peut dire qu'elle a les institutions d'une cité grecque. Il y a un conseil, il y a des magistrats, il y a un ganagoranum, il y a un gymnasiarque. Les institutions de Palmyre ne sont pas différentes des cités grecques de Syrie ou d'Asie mineure, par exemple.
Donc à l'extrémité orientale de l'Empire romain, dont Palmyre devient une province et même une ville frontière, et face au principal ennemi de Rome dans la région, la Perse sassanide, dont les rois Ardashir et Shapur allaient menacer au IIIe siècle les provinces orientales de Rome.
Nous allons faire de la Perse la plus forte royauté d'Orient.
Un messager du roi Sapor est arrivé de Perse à l'instant.
Où est-il?
Dans mes appartements.
Le roi Sapor en personne sera à la tête de ses cohortes.
Et sa victoire sera triomphale.
Sur un signe de toi, il sera prêt pour attaquer Palmyre.
Nous ne nous pressons pas. Nous ignorons quelle sera l'attitude de Rome après sa défaite. Si elle envoyait des renforts, les soldats persans risqueraient de perdre la bataille. Le roi Sapor est puissant. Et ses cohortes sont déjà en marche.
Que peut faire la valeur si nos soldats ne sont pas en nombre pour arrêter les hordes asiatiques?
Alors la Perse du roi Sapor Tibor ou Shapur, hein, c'était vraiment le principal danger auquel, dans la région, devait faire face Rome à ce moment-là. D'autant plus que Rome se trouvait sur toutes ses frontières menacées. Mais la Perse était le principal danger, Annie Sartre.
Alors, les Perses deviennent effectivement les principaux ennemis à partir du début du IIIe siècle, au moment où les Perses sassanides prennent le pouvoir dans le sud de la Mésopotamie et renversent la dynastie précédente, qui était la dynastie des Parthes. Alors, les Romains avaient entretenu avec les Parthes des relations conflictuelles, mais qui n'avaient jamais été extrêmement destructrices pour l'Empire romain. En revanche, avec les Perses, la situation change du tout au tout. Ils rentrent dans l'Empire, ils passent l'Euphrate, ils ravagent les cités et les villes de Syrie du Nord et menacent en même temps le commerce.
Ils infligent à Rome une déroute effroyable. Jamais on n'a vu ça. Un empereur, Valérien, qui est capturé et dont on ne sait jamais ce qu'il est devenu, capturé par les Perses.
Oui, exactement. Alors, on a quelques informations données par les sources littéraires sur Valérien qui partageait le pouvoir avec son fils Galien. Galien était resté en Occident, Valérien était venu en Orient. Et Valérien est écrasé, effectivement, par les Perses. Il est capturé et on ne sait jamais exactement ce qu'il est devenu. On a un relief, un bas-relief qui a été retrouvé en Mésopotamie où on voit l'empereur romain au pied du cheval de l'empereur perse. Et les sources disent qu'il aurait été évidemment emmené en Mésopotamie, qu'il aurait été mis à mort, qu'il aurait servi d'esclave. D'autres disent qu'on l'aurait écorché et qu'on aurait suspendu sa peau teinte en rouge dans le palais pour en effrayer les visiteurs.
Alors ça, c'est en 259. Et qu'est-ce qui va finalement sauver Rome en battant les Perses? Eh bien, c'est le roi de Palmyre, je ne sais pas comment il faut l'appeler, Maurice Sartre, qui s'appelait Odaenath.
Odaenath, alors il ne faut pas lui donner le titre de roi de Palmyre, ce qu'il n'a jamais été.
Il a pris le titre de roi des rois.
Voilà, alors, ayant vaincu le roi des rois, c'est-à-dire le roi des Perses, il lui conteste son pouvoir et il prend donc le titre de roi des rois. Ce que les Romains acceptent bien volontiers, parce que de toute façon, ça ne met pas en péril leur propre autorité. Et après que Valérien donc, ait été capturé par les Perses, c'est Odaenath qui chasse les Perses de Syrie, qui les poctionne peut-être même juste à Ctésiphon, leur capitale, en Mésopotamie, et il apparaît donc comme une sorte de sauveur de la Syrie, ce qui fait que l'empereur Galien lui accorde un certain nombre de titres qui n'en font pas pour autant ni un roi, ni un prince, ni quoi que ce soit. Il porte des titres assez variés, mais qui n'ont pas tous d'ailleurs une grande résonance pour un Romain. Et sont des titres locaux. Ce qu'il apparaît, c'est effectivement comme le chef le plus puissant d'une ville puissante de Syrie, à savoir en plus que Palmyre est la seule ville qui ait gardé sa propre armée parce qu'il fallait faire la police du désert. Et il a mis à profit cette puissance militaire de Palmyre, mais qui reste pour autant
pour battre les Perses.
Mais Palmyre reste pour autant à cette époque-là une ville de l'Empire romain et Odaenath est toujours dans le cadre de l'Empire romain.
Jusqu'à son assassinat en 267, et c'est alors que sa veuve Zénobie entre dans l'histoire en se tournant contre l'Empire romain.
La reine Zénobie naît sur le trône de Syrie que depuis l'assassinat de notre allié le roi Odaenath, dont la fidélité nous était acquise. La manière d'agir de cette reine cause des inquiétudes aux autorités de Rome. Elle cherche à réfuter les traités signés avec notre empire. Nos légions ont été attaquées. Surprises, elles ont été anéanties. Et leurs insignes, traînés dans le sable, enfouis dans le désert. Sa folle ambition, la révolte qu'elle suscite, doit être étouffée sans retard.
Alors Zénobie, c'est le nom le plus connu de l'histoire de Palmyre, c'est presque le seul d'ailleurs que l'on retienne, Annie Sartre. D'où venait-elle? C'était donc la femme d'Odaenath. On pense même que c'est peut-être elle qui a assassiné son mari.
Oui, c'est évidemment. Mais on ne sait pas du tout, en fait, pour quelle raison Odaenath et son fils Ayran, son fils aîné Ayran, ont été assassinés. Peut-être sur ordre de l'empereur de Rome, qui voyait peut-être dans Odaenath
une menace,
un usurpateur potentiel, ce qu'a fait effectivement Zénobie par la suite. Alors Zénobie, c'est peut-être la deuxième femme d'Odaenath. Elle lui a donné d'autres enfants, certains Wabalat, qui à la mort de son mari, donc elle voit comme le successeur évidemment d'Odaenath, qui est encore très jeune, et elle permet à ce fils de prendre les titres de son père, dans la mesure où elle aussi hérite de ce titre de reine, comme Odaïnath était roi des rois. Mais pour autant, il n'y a pas non plus de royaume à l'époque de Zénobie. Elle assume simplement la succession. Alors, on ne sait pas quelle est son origine. Les inscriptions ne sont pas d'un grand secours, les textes non plus. Bon, ce qu'on peut dire, c'est que par rapport au nom qu'elle porte, c'est une femme d'origine locale, comme l'était Odaïnath. Elle appartenait vraisemblablement à une famille de notables de l'Oasis, et elle reprend, on va dire, le pouvoir qui était aux mains de son mari pour le transmettre à son
fils. Mais elle va même plus loin, parce qu'elle veut se faire proclamer impératrice ou faire proclamer son fils impératrice.
Elle se proclame impératrice et son fils aussi. C'est-à-dire qu'elle usurpe la pourpre
romaine.
La pourpre romaine. Ils deviennent l'un et l'autre empereur et impératrice de Rome. Et on a tout lieu de penser qu'en fait, elle veut prendre réellement le pouvoir sur l'Empire et pas uniquement recréer, faire une sécession, créer un empire oriental. Pas du tout. Moi, de mon point de vue, elle usurpe la pourpre comme l'ont fait d'autres avant elle. Et que les victoires, au fond, qu'elle avait remportées, lui permettaient d'assumer.
Alors qu'une femme se proclame impératrice romaine ou de Rome, bon, c'est quand même plutôt rare. Ce qui l'est moins, c'est qu'on oublie souvent, Maurice Sartre, il y a eu des empereurs originaires de la même région à Rome.
D'abord, il y a eu plusieurs empereurs syriens. Il y en a eu un peu de temps avant elle, Philippe l'Arabe, qui est originaire de la province d'Arabie, donc tout près de Palmyre. Il y en a un autre, Démèse, qui est une ville à 100 km de Palmyre, Uranus Antoninus. Et puis, il y a eu une grande famille de la même ville, Démèse, qui a donné non pas leur, des empereurs directement, mais par leur grand-mère, qui était une femme Démèse, la femme de Septime Sévère, Julia Domna. Il y a des empereurs qu'on peut appeler syriens, Elagabal et Alexandre Sévère, au début du 3e siècle. Et Zénobie, vous étonniez qu'elle se proclame impératrice, une femme. En réalité, elle proclame son fils et elle. Donc, elle est la mère de l'empereur, donc elle est impératrice, de la même manière qu'elle était reine, parce qu'elle était à la fois l'épouse d'un roi des rois et la mère d'un roi des rois. Donc, il y a eu comme ça une vingtaine ou une trentaine d'usurpateurs en 30 ans, donc...
Alors, elle se proclame impératrice, mais à Rome, on n'est pas du tout d'accord. D'abord, on va désigner un nouvel empereur qui sera Aurélien. Et puis surtout, on reproche à cette femme de vouloir faire de Palmyre un véritable empire en s'emparant de toutes les possessions romaines d'Orient et notamment du poumon un peu de Rome, c'est-à-dire l'Égypte. L'Égypte qu'elle réussit à rattacher à Palmyre.
Oui, alors effectivement, elle essaie de se faire reconnaître au fond dans les autres provinces parce que elle est à Palmyre et Palmyre, son rayonnement malgré tout est limité. Donc elle entame effectivement une conquête de plusieurs provinces orientales en commençant par la Syrie. Les armées d'Zénobie vont descendre en direction de l'Arabie, vont prendre la capitale de l'Arabie, Bosra. On a des inscriptions qui nous rappellent ce fait où les armées palmyréniennes ont détruit le temple de la troisième Cyrénaïque, la légion qui était cantonnée à Bosra. Ensuite, ils sont descendus en Égypte où là, évidemment, là, ils ont menacé l'approvisionnement de Rome et où ils avaient probablement des appuis car il y avait des communautés palmyréniennes installées en Égypte. Et puis, à la suite de cela, ils sont remontés vers le nord et, après Antioche, ont investi une partie de l'Asie mineure.
C'est-à-dire la Cappadoce, c'est-à-dire jusqu'à Ankara actuellement. Alors évidemment, réaction de Rome, du nouvel empereur Aurélien, qui contre-attaque, qui va attaquer les Palmyréniens et battu à Antioche. Et puis Zénobie va tenter de s'enfuir. Ça a duré finalement peu de temps, ses ambitions. Oui. Elle s'enfuit à dos de chameau avec son fils et puis elle est capturée au bord de l'Euphrate par les légions d'Aurélien.
Vous êtes les maîtres ici. Je ne suis plus qu'une prisonnière.
Nous avons reçu l'ordre de te conduire à Rome et de partir demain matin à l'aube.
Pour aller subir l'humiliation de figurer en personne dans ton triomphe.
Hélas, c'est une dure loi, Zénobie. Mais il faut s'y résigner si tels sont les ordres de Rome.
Nous n'avions pas voulu cette guerre. Sous le règne de son roi défunt, Palmyre avait eu des années de paix et de prospérité. Après la tragique disparition de son roi, notre allié, Palmyre n'a connu que trahison et misère. Mais Rome ne saurait trahir ses anciennes alliances.
On ne sait pas très bien, en fait, ce qu'est devenu Zénobie, après avoir été capturée par les, les Romains. On ne sait pas quel était son destin à Nisarque exactement.
Non, on ne le sait pas parce que, comme je vous le disais tout à l'heure, les sources sont extrêmement modestes sur le sujet. Et la grande source dont nous nous servons et dont se servent parfois de façon abusive et en lui accordant beaucoup trop d'intérêt, c'est l'histoire Auguste qui donne quelques informations sur le devenir de Zénobie. Alors, effectivement, elle aurait cherché à fuir en direction de la Perse, ce qui peut paraître étonnant, mais qui montre sans doute qu'il y avait des relations plus étroites qu'on ne pense entre les Palmyréniens et les Perses. Et elle a été emmenée par Aurélien pour figurer au triomphe. C'était le sort, en fait, de tous les vaincus
qui devaient finir
à Rome dans le triomphe de l'empereur. Alors, l'histoire Auguste raconte avec force détail qu'elle est arrivée couverte de bijoux, qu'elle était tellement surchargée de ses bijoux qu'elle ne pouvait pas marcher, qu'on était obligé de la soutenir, etc. Et bon, on le croit volontiers si effectivement elle a figuré au triomphe, parce que quand on voit les bas-reliefs représentant des femmes de Palmyre à peu près à la même époque, elles sont absolument surchargées de bijoux, de perles, de colliers, de bracelets, de bagues, etc. On peut imaginer que Zénobie effectivement leur ressemblait.
On dit que Rome leur est épargnée, les Romains leur est épargnée, qu'on leur ait laissé vivre tranquillement, passer sa retraite à Tivoli.
C'est ce qu'on dit. On dit qu'Aurélien l'aurait épousée, qu'une de ses filles aurait épousé un fils d'Aurélien. Enfin, vous savez, c'est toute la mythologie qui s'est développée autour de cette femme qui, effectivement, a marqué, pour 2 ans de sa vie, ont marqué définitivement, finalement, l'histoire. C'est assez amusant.
Beaucoup de légendes sur Zénobie. Oui. Qu'est devenu Maurice Sarthe? Qu'est devenu Palmyre après cette défaite de Zénobie?
Alors, Palmyre a subi, évidemment, d'abord un premier siège qui ne s'est pas trop mal passé, c'est-à-dire que la ville n'a pas été détruite. Puis il y a eu un deuxième soulèvement, et là, les armées romaines ont détruit en partie la ville. Mais contrairement à ce que l'on pense, Palmyre a survécu et a même pas si mal survécu que ça à ce désastre. Elle est restée d'abord une ville de l'Empire.
Beaucoup de ruines, d'ailleurs, que l'on peut voir aujourd'hui à Palmyre,
sont postérieures. Il y a une légion qui s'y est installée, dans ce qu'on appelle le camp Dioclétien. On a reconstruit des thermes, on a réparé des monuments. Et en fait, ce qui a ruiné Palmyre, ce n'est pas le soulèvement et l'attaque de l'armée d'Aurélien. C'est en fait un traité conclu à l'extrême fin du IIIe siècle entre Rome et les Perses, qui concentre tout le commerce entre les deux empires, beaucoup plus au nord, dans la ville de Nisibe. Et ce traité de 294, si j'ai bonne mémoire, lui, alors, ruine le commerce de Palmyre, puisqu'on ne peut plus faire de commerce ailleurs. Le seul poste de douane, c'est Nisibe. Or, Palmyre avait bâti sa fortune sur ce commerce de transit entre l'Orient et l'Occident. Et le site de Palmyre devient un évêché. On y a repéré au moins 2 ou 3 églises. Le site est habité et d'ailleurs c'est assez curieux de voir que les gens habitent les maisons du 2e ou du 3e siècle jusqu'au 9e, 10e siècle de notre ère. Les archéologues polonais ont découvert comme ça des stucs tombés sur des sols du 9e siècle et qui sont des stucs du 2e siècle. Donc la ville a dû rester presque intacte relativement longtemps. Mais ce n'est plus qu'une oasis dans le désert. Pour un petit commerce local à la rigueur, mais
passant
pas
sous le contrôle de l'Empire byzantin, puis des Arabes qui arrivent au début du 7e siècle, qui rendent d'ailleurs à Palmyre son nom initial de Tadmor. Puis ensuite, il y a eu l'Empire turc.
Qu'elle n'a jamais perdu son nom, si je peux vous attendre une minute. Dans les inscriptions araméennes, elle s'appelle Tadmor. Il n'y a que les Grecs qui l'appellent Palmyre.
Alors après les Arabes, les Turcs. Et puis après les Turcs, eh bien, c'est la France qui, en 1918, faisait de la Syrie et du Liban un mandat français, à partir duquel, dans les années 30, partait une célèbre expédition automobile à destination de la Chine et qui allait passer par Palmyre, la croisière jaune.
4 avril 1931, une réunion de savants, d'ingénieurs, d'artistes ira de Beyrouth à Pékin. Ce sera l'expédition Citroën Centre-Asie, la croisière jaune. Montée sur les tours du château des Crates, construit au temps des croisades par Godefroy de Bouillon, les Syriens s'émerveillaient de voir partir vers l'inconnu de modernes pieds encore venus de France. Le dernier salut de la patrie.
Palmyre, on t'aime, on t'admire, et pour toi soupire, ici tous les cœurs. Palmyre, ce qui nous attire, c'est ton beau sourire et ton air moqueur. Tous on gardera toujours le souvenir d'un beau séjour. Grâce à toi, y a pas d'erreur. On a vécu comme des empereurs. Palmyre, on t'aime, on t'admire. Et c'est ton bon cœur qui nous a tous porté bonheur.
Palmyre, on t'aime, on t'admire. Et pour toi, soupire, ici tous les cœurs. Palmyre.
Je vous ai vu beaucoup sourire et même rire, hein. Annie et Maurice Sartre.
Hein,
vous l'avez jamais entendu, vous qui connaissez
jamais.
Pas lire sur le bout des doigts.
Jamais. Non. Non.
Alors ça, c'est une chanson de 1929, hein, beaucoup moins romantique que le récit que faisaient tous les voyageurs européens qui ont redécouvert Palmyre à partir du XVIIe siècle. Ils ont mis beaucoup de temps, Annie Sartre, avant de redécouvrir dans le désert, dans le sable, cette oasis qui avait été un empire autrefois.
Oui, alors on savait où était Palmyre, on connaissait Palmyre, à la différence de Petra, dont on avait complètement perdu l'accès jusqu'à sa redécouverte au XIXe siècle. Palmyre, on savait où c'était, mais on n'osait pas y aller parce que le désert était difficile à traverser. Il y avait des bédouins pillards, il y avait des détrousseurs de voyageurs, et donc on hésitait vraiment. Alors, on sait qu'au XIIe siècle, il y aurait peut-être eu un rabbin espagnol, le Benjamin Tudel, qui serait allé à Palmyre, mais on doute un peu de la réalité de ce voyage. Et en fait, les premiers vraiment à redécouvrir Palmyre, ce sont des marchands anglais qui ont entendu dire à Alep qu'il y avait une possibilité de se rendre à Palmyre, qui montent une expédition en 1678. Ils sont détroussés, ils font demi-tour et ils reviennent en 1691 avec un pasteur anglais qui va recopier des textes palmyréniens qui vont être à l'origine de la compréhension de ce que signifie la langue de Palmyre. Parce que pendant très longtemps,
c'était quoi justement cette langue ?
Ben, c'est de l'araméen qui donc est gravé sur les différents monuments, conjointement souvent avec du grec. Alors le grec, on savait le lire, mais le palmyrénien, on ne savait absolument pas ce qu'il signifiait. C'est que lorsqu'on a pu comprendre la langue, qu'on a compris en fait que c'était la traduction des textes grecs. Mais on a eu parfois des traductions complètement farfelues du palmyrénien parce que on ne savait absolument pas à quoi correspondait cette langue.
Et alors c'est comme ça qu'on a redécouvert l'histoire de Palmyre,
voilà.
Avant Zénobie.
Et donc c'est lorsque l'abbé Barthélemy en 1754 a déchiffré cette langue, ça nous a permis évidemment de faire des progrès énormes dans la compréhension de ce qu'était l'histoire de Palmyre, parce que évidemment on a pu mettre en relation les différents textes et reconstituer l'histoire.
À quoi ça ressemble, vous qui y êtes souvent allé, et qu'est-ce qui reste encore à découvrir à Palmyre? Ces ruines sont magnifiques quand on les voit en photo dans votre livre ou dans un autre beau livre que je citerai tout à l'heure. C'est extraordinaire, c'est magnifique, Palmyre.
Alors, ce qui reste à découvrir, d'abord, une grande partie de la ville. Car la ville que voient aujourd'hui les voyageurs, les touristes, disons, c'est la ville d'époque romaine. C'est un quartier qui a été construit entre le début du IIe siècle et le milieu du IIIe siècle. Mais on vient maintenant de découvrir tout un quartier beaucoup plus ancien qu'on est en train de fouiller au sud de la ville et qui double la superficie de Palmyre. Bien entendu, il y a encore beaucoup de tombeaux à découvrir. Il y en a qui sont repérés mais pas fouillés. Et puis, il y a à fouiller et à repérer encore beaucoup de caravansérails autour de la ville parce que les caravanes ne passaient pas dans la ville. Il ne s'agissait pas de venir polluer. Il y avait un aspect un peu écologique, si vous voulez, mais aussi fiscal. Et donc, il y a beaucoup de caravansérails un peu partout et dans la palmyrène.
C'était une émission du 29 avril 2008. Pour en savoir plus, je recommande la lecture du livre de Annie et Maurice Sartre, Palmyre, la cité des caravanes, publié aux éditions Gallimard dans la collection Découverte et dans la même collection La Syrie antique de Maurice Sartre, publié en février 2008. Un livre plus ancien aussi, le magnifique ouvrage de Gérard de Georges, préfacé par Paul Veyne, Palmyre, métropole caravanière, publié en 2001 aux éditions de l'Imprimerie Nationale. Vous avez pu entendre des extraits du film Sous le signe de Rome, un film de Michelangelo Antonioni et Vittorio Musiglori, sorti en 1960 avec Anita Ekberg et Georges Marchal. Vous pouvez retrouver ces références par téléphone au 3230, 34 centimes la minute ou sur le site franceinter.com. C'était 2000 ans d'histoire. À la technique, Benoît Massir et Olivier Daligo. Documentation, Emmanuel Fournier et Franck Olivard. Une réalisation de Marie Casanova.